Référence pour tous les pays de la CEDEAO. Au revoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 9 décembre 2024. En direct de Washington, Roselyne Monezero. Pour commencer, les titres. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye fait état des progrès dans sa mission de médiation en direction du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en passe de sortir de la CEDEAO. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a formé un nouveau gouvernement 2 jours après la dissolution de l'ancien. En Haïti, près de 200 personnes ont été tuées à Port-au-Prince ce week-end lors de violences orchestrées par un chef de gang. Le président Bachar al-Assad a fui la Syrie, chassé par une offensive spectaculaire de rebelles islamistes. Et dans notre partie magazine, Donald Trump a récemment mis en garde les pays du BRICS contre les efforts visant à remplacer le dollar par une monnaie alternative. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Burkina Faso forme un nouveau gouvernement 2 jours après la dissolution de l'ancien cabinet. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a été nommé samedi au poste de Premier ministre. Les détails avec Alexandrine Holognon.
Peu de changements dans ce nouveau gouvernement de 24 ministres. Au ministère de la Défense, le général Célestin Simporé succède au général Kassoum Koulibaly. Gilbert Ouédraogo, précédemment directeur de la communication de la présidence du Faso, fait son entrée au gouvernement au poste de ministre de la Communication en remplacement de Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, désormais Premier ministre. Le commandant Pélagie Cabré remplace au ministère de l'Action humanitaire Nandi Sommé. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Bassol Mabazier, est remplacé par Mathias Traoré. Cette nouvelle équipe, comme la précédente, compte seulement 3 femmes. La plupart des 24 ministres sont des civils. La formation de ce nouveau gouvernement intervient après que le capitaine Traoré a démis vendredi de ses fonctions. Le Premier ministre Apollinaire Joaquim Kielem de Tambela est dissous l'ancien gouvernement sans fournir aucun motif.
Les Ghanéens ont élu le candidat de l'opposition John Dramani Mahama comme un nouveau président au terme de la présidentielle de samedi. Le candidat du parti au pouvoir a reconnu sa défaite dans ce pays d'Afrique de l'Ouest aux 34 millions d'habitants et fidèle à sa tradition d'alternance politique pacifique. Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité, a déclaré son adversaire du parti au pouvoir, le vice-président Mahamudu Bawumia, lors d'une conférence de presse dimanche matin à Accra, la capitale. Le principal parti d'opposition en Namibie a engagé lundi une procédure de contestation des résultats de la présidentielle, marquée selon lui par des irrégularités après la victoire au premier tour de la candidate du parti au pouvoir. Ce changement, les patriotes indépendants pour le changement avaient déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats dans ce vaste pays d'Afrique australe, riche en minerais. Le 3 décembre, la commission électorale avait proclamé la victoire de Netumbo Nandi Ndaitwa, 72 ans, issu du parti au pouvoir dès le premier tour avec 57,31% des suffrages. Il s'agit de la première femme à être élue présidente en Namibie. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dit progresser dans sa mission de médiation en direction du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dirigé par des militaires. Ces 3 pays sont en passe de sortir de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Yacouba Ouédraogo.
J'avance dans le cadre de cette mission, ce sont les mots de Bassirou Diomaye Faye lors du forum de Doha, selon une vidéo postée par ses services sur les réseaux sociaux. Le président sénégalais évoquait le sujet à l'approche d'un sommet de la CEDEAO prévu dimanche. Selon un responsable de l'organisation, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel et annoncé en janvier quitter la CEDEAO, qu'ils accusent d'être inféodés à l'ancienne puissance coloniale française et de ne pas les avoir soutenus contre le djihadisme. Leur départ devient statutairement effectif 1 an après son annonce, donc en janvier 2025, affirme la CEDEAO, qui a nommé Diomaye Faye médiateur en JA. Rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'alliance des États du Sahel. Puisqu'elle est déjà là, elle répond à une réalité sécuritaire à laquelle ces pays font particulièrement face. En même temps, cela ne devrait pas, de mon point de vue, expliquer une désintégration de la CEDEAO, soutien de Diomaye Faye qui a plaidé pour une réforme de l'organisation. Le président sénégalais s'est rendu aux Émirats arabes unis et au Qatar pour convaincre les partenaires et les investisseurs d'accompagner son plan de transformation de son pays.
Les autorités camerounaises ont interdit les activités de 5 ONG accusées de financement illicite, notamment liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. L'interdiction touche deux entités du réseau d'organisation de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, ainsi que LM Yenange Foundation, Reach Out Cameroun et l'association charitable socioculturelle du Cameroun. Ces ONG auraient reçu environ 16 milliards de francs CFA en deux ans, des fonds jugés disproportionnés par rapport à leurs activités. Les responsables des ONG ont rejeté ces accusations, les qualifiant de graves et infondées. En République démocratique du Congo, une maladie mystérieuse se propage principalement parmi les enfants et met en danger les personnes souffrant de malnutrition sévère, selon l'OMS, qui a envoyé des experts dans la région pour enquêter sur l'épidémie. Dans une mise à jour publiée dimanche soir, l'OMS indique que 406 cas de cette maladie non diagnostiquée ont été enregistrés entre le 24 octobre et le 5 décembre, dont 31 décès. Les symptômes de la maladie dont la cause n'a pas été établie sont la fièvre, les maux de tête, la toux, l'écoulement nasal et les courbatures. Elle se propage dans la zone de santé de Panzi, dans la province du Kwango, au sud-ouest du Congo.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Parlement syrien a déclaré ce lundi qu'il respectait la volonté du peuple de construire une nouvelle Syrie, saluant une journée historique au lendemain de la prise de la capitale par les rebelles et de la fuite de l'ex-président Bachar al-Assad. Les derniers développements avec Mouamadou Oumfa.
Le 8 décembre a été une journée historique dans la vie de tous les Syriens. Nous soutenons la volonté du peuple de bâtir une nouvelle Syrie tournée vers un avenir meilleur, gouvernée par la loi et la justice, a indiqué le Parlement dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Sana. L'ONG Human Rights Watch a exhorté les rebelles syriens à traiter humainement les anciens responsables, loyalistes et soldats du gouvernement déchu de l'ex-président Bachar al-Assad. Ils doivent s'engager à garantir un traitement humain à tous, a déclaré Lama Faki, directrice pour le Moyen-Orient de l'ONG. Pour sa part, l'ONU a demandé que tous les responsables d'exactions sous le régime de Bachar al-Assad rendent des comptes dans le cadre d'un processus de transition politique. Toutes les mesures doivent être prises pour assurer la protection de toutes les minorités et pour éviter les représailles et les actes de vengeance, a déclaré le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, en conférence de presse à Genève. La Banque centrale de Syrie a affirmé que l'argent des déposants était en sécurité. Dimanche, les rebelles ont déclaré dans un communiqué insister sur la nécessité de préserver les biens publics et privés dans la capitale Damas et de les protéger. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a annoncé avoir demandé aux autorités syriennes de s'assurer que les stocks d'armes chimiques étaient en sécurité. Plus tôt ce lundi, le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que son pays avait mené des frappes ces jours-ci pour détruire des armes chimiques en Syrie afin qu'elles ne tombent pas aux mains d'extrémistes.
L'armée israélienne a annoncé lundi la mort de 7 soldats, 4 tués au Liban. Première perte dans ses rangs depuis l'entrée en vigueur le 27 novembre d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et 3 dans la bande de Gaza. En vertu de l'accord de trêve au Liban, conclu après plus d'un an d'hostilité transfrontalière et 2 mois de guerre ouverte avec le Hezbollah, l'armée israélienne dispose désormais d'un peu moins de 50 jours pour se retirer progressivement du Liban. Près de 200 personnes ont été tuées au Port-au-Prince ce week-end lors de violences orchestrées par un chef de gang, a indiqué l'ONU lundi, ce qui porte le bilan des victimes à 5000 personnes cette année en Haïti. Le point avec Dili Diko.
Les meurtres ont été coordonnés par un puissant chef de gang convaincu que la maladie de son fils avait été causée par des pratiquants du culte vaudou, selon l'ONG haïtienne Comité pour la paix et le développement. Il a décidé de punir toutes les personnes âgées et les pratiquants du vaudou qui, dans son imagination, seraient capables d'envoyer un mauvais sort à son fils, a expliqué l'organisation basée en Haïti. Les soldats du gang étaient chargés d'identifier les victimes dans leur maison et de les emmener au fief du chef pour y être exécutés, selon l'ONG. Le massacre a eu lieu dans le quartier de Cité Soleil, situé dans l'ouest de la capitale, en bord de mer. Volker Türk, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a déclaré lundi à Genève que rien que le week-end dernier, au moins 184 personnes ont été tuées à Port-au-Prince. Haïti pâtit depuis des dizaines d'années d'une instabilité politique chronique et d'une crise sécuritaire liée à la présence des gangs. La situation s'est aggravée depuis février lorsque des groupes armés ont lancé des attaques coordonnées à Port-au-Prince pour renverser le Premier ministre de l'époque, Ariel Henry.
Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Eric Manilakiza.
La méfiance gagnait du terrain au Nigeria à l'égard des vendeurs d'argent mobile, devenus l'alternative aux banques traditionnelles, notamment dans les zones rurales désertées par les agences bancaires. Appelés opérateurs de points de vente, ils s'installent en général au bord des accès routiers, proposent des retraits d'argent grâce à un terminal bancaire avec des frais jugés par beaucoup exorbitants. Une panne du réseau électrique en Éthiopie samedi a entraîné des coupures de courant sur tout le territoire national. L'Éthiopie a commencé à produire de l'électricité à partir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil en février 2022 et en août a annoncé avoir mis en service de nouvelles turbines. L'Éthiopie vend de l'électricité au Kenya, au Soudan et à Djibouti et a signé des protocoles d'accord avec le Soudan du Sud, la Tanzanie et la région somalienne sécessionniste du Somaliland. Donald Trump a déclaré dans une interview diffusée dimanche ne pas pouvoir garantir que les prix à la consommation n'augmenteraient pas pour les ménages américains comme conséquence des droits de douane qu'il compte appliquer, tout en réitérant être un fervent partisan de cette politique économique. « Je ne peux rien garantir », a-t-il déclaré, avant de préciser que selon lui, les droits de douane ne coûtent rien aux Américains.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Football pour commencer avec la deuxième journée des matchs de poule des interclubs de la CAF.
Oui, en Ligue des Champions, les Soudanais Dal Hilal et leur coach congolais Florent Ibengué enchaînent une seconde victoire après avoir battu 2-1 le tout-puissant Mazembe. Le club d'Ondourman est le seul en tête du groupe A avec 6 points, soit 2 de plus que le MC Alger, victorieux 2-0 des Tanzaniens de Nyanga. Dans la poule D, l'Espérance de Tunis et Pyramide d'Égypte n'ont pas pu faire la différence, accrochés 0-0, respectivement par les Angolais de Sagrada Esperança et les Maliens de Djoliba.
Le tenant du titre accroché dans le groupe C.
Le National Al Ahly du Caire concède le nul 0-0 à Johannesburg devant Orlando Pirates. Les deux clubs partagent la tête du groupe A avec 4 points chacun, suivi des Algériens du CRB Louisda, tombant 1-0. Des Ivoiriens du Stade d'Abidjan, le groupe B est dominé par les Marocains de l'AS FAR malgré leur nul un but partout face aux Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Même score entre Maniema Union et le Raja de Casablanca.
On jouait aussi la deuxième journée en Coupe de la Confédération.
Deuxième victoire de suite pour les Algériens de Constantine qui ont eu raison des Tanzaniens de Simba Sport, score 2-1. Deux succès en deux matchs aussi pour la Renaissance sportive de Berkane. 3-1 en Afrique du Sud au départ de Stellenbosch. Pour le reste, rien que des matchs nuls dans le groupe D. 2-2 entre Enyimba et le Zamalek. Un but partout entre Black Bulls et Al Masry. Dans la poule C, 0-0, c'est le score qui a sanctionné les deux matchs. Jaraf de Dakar USM Alger et Orapa United ASEC d'Abidjan. Les Angolaises ont remporté leur 5e Coupe d'Afrique des Nations consécutive, la 16e de leur histoire en 26 éditions, après avoir battu le Sénégal en finale à Kinshasa, 27-18. Écoutons le sélectionneur des Lions de la Teranga, Yassine Messaoudi.
On a manqué de profondeur de banc, donc on est arrivé en finale face à l'ogre angolais, très entamé sur le plan physique. Quand on sait que c'est une équipe extrêmement redoutable, qui a aujourd'hui le niveau des équipes européennes, pour pouvoir prétendre à la victoire face à ce type d'adversaire, il faut être en pleine possession de ses moyens. Ça, c'est le petit regret que j'ai, parce que ce n'était pas notre cas. Pour autant, on a livré un match avec beaucoup de courage, de détermination, mais la marche était trop haute. Pour autant, je retiens vraiment de cette compétition l'état d'esprit de mon équipe, qui a été fabuleux, avec beaucoup d'adversité, mais une vraie volonté de rendre fier le peuple sénégalais et d'aller le plus haut possible pour arracher cette qualification au championnat du monde.
Yacine Messaoudi, sélectionné des Lions de la Teranga, la Tunisie finit troisième après avoir remporté le match de classement suite à son succès 25-22 sur l'Égypte.
Merci à Kouba. De nouveau avec vous, Rosine Ounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, début de la campagne pour les élections législatives, communales et provinciales du 29 décembre en cours. Les candidats ont 21 jours pour convaincre les électeurs à voter pour eux. André Codemandigar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Le coup d'envoi de la campagne pour les législatives couplées aux communales et provinciales du 29 décembre prochain a été donné par Ahmed Barthiri, président de l'Agence nationale de gestion des élections. Elle s'étendra du 7 au 27 novembre sur l'ensemble du territoire tchadien.
Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes 21 jours avant la date du scrutin et prennent fin 24 heures avant la date d'ouverture du scrutin.
Ahmed Barthiri rappelle aux candidats en liste quelques interdictions prescrites par le code électoral.
La loi ne permet pas de distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou documents de campagne. Je dois rappeler aux candidats leur obligation de s'abstenir d'utiliser les biens, moyens, attributs et symboles de l'État, une institution publique ou un organisme d'État à des fins de propagande ou dans le but d'influencer ou tenter d'influer le vote. Le non-respect de ces interdictions expose leurs auteurs à des sanctions prévues par la loi.
Brahim Foula Wanlauna, candidat du MPS aux législatives dans le 7e arrondissement municipal de N'Djamena, dont la candidature a été rejetée par l'ange pour des raisons qu'il qualifie de fallacieuses, a été repêché par le Conseil constitutionnel. Il émet de doute quant aux institutions chargées de gérer ces élections.
Je ne fais pas confiance et nous allons prendre des dispositions. Nous allons former 2000 à 3000 jeunes le jour où cette institution s'hasarde à voler nos résultats. Il ne faut pas que les gens pensent que je suis du parti au pouvoir, je vais subir l'injustice. S'il s'avère qu'on a gagné et que les gens vont aller faire des tripatouillages, nous allons aller au pire. Parce qu'on est fatigué de ce genre de comportement.
L'ancien premier ministre et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Albert Paimi Padaki, lui aussi attire l'attention des organes chargés d'organiser ces élections.
Si notre aspiration commune est de bâtir une nation unie dans ses diversités, façonner le vivre ensemble dans la dignité de chacun pour guérir les fractures profondes de notre peuple, commençons pour une fois par le respect de la vérité de Dieu.
Mohamed Bacharagui, ex-politico-militaire qui participe à de telles élections au Tchad pour la première fois sous la bannière de son parti, le Rassemblement National Démocratique et Populaire, se dit prêt à se battre pour le bien-être de la population.
Plus de 50 ans, j'étais là sur le terrain et aujourd'hui, après la signature des accords de Doha, je suis là pour la paix et pour le combat démocratique, le combat du développement. Je suis témoin de la difficulté dont le peuple tchadien souffre et je suis prêt à continuer pour que le peuple tchadien en général souffre moins.
L'organisation de ces élections marque la dernière étape pour le retour définitif à l'ordre constitutionnel après la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno en 2021. Le parti d'opposition Les Transformateurs du Dr Succé Masra et le GCAP, un regroupement des partis politiques de l'opposition, refusent de participer à ces élections. Pour eux, les conditions de transparence ne sont pas réunies. André Kodoma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, candidat du parti au pouvoir à Accra, a reconnu sa défaite face à John Mahama lors de l'élection présidentielle. Fidèle à la tradition démocratique du pays depuis 1992, cette alternance paisible illustre la maturité politique ghanéenne où les électeurs décident régulièrement du changement via les urnes. Pour en parler, Eric Manilakiza a joint à Philadelphie Nyaka Lagoke, maître de conférences en histoire et en études panafricaines à l'université Lincoln.
L'élection de John Mahama Dramani peut être vue comme la victoire du système démocratique ghanéen, Cela démontre de la majorité politique et Ghana démontre un exemple de leadership et cela démontre une fois de plus qu'en Afrique, tout n'est pas que tragédie et tout n'est pas que mort quand il y a des élections.
Qu'est-ce que la démocratie ghanéenne vous inspire et que faudrait-il faire pour garantir des élections pacifiques et crédibles sur tout le continent?
Bon, d'abord, les choses progressent. Alors, au Ghana, il y a eu des élections que nous apprécions tous. Mais avant le Ghana, il y a eu le Botswana. Après le Botswana, il y a eu la Namibie. Et puis, avant la Namibie et le Botswana, il y a eu le Sénégal. Donc, c'est pour vous dire que les choses se passent bien sur le continent africain. Cela peut être meilleur, parce qu'il y a encore beaucoup de poches de résistance. Et donc, à l'aide des réseaux sociaux, dans ce contexte du renouveau du panafricanisme, ce sont de bonnes pratiques que chaque population africaine veut revendiquer. Et cela est déjà le gage que ce courant peut continuer et va toucher d'autres régions où les partis démocratiques ne sont pas ce que nous voulons.
À votre avis, quel rôle le panafricanisme peut-il jouer pour promouvoir des systèmes électoraux crédibles et l'alternance démocratique à l'échelle du continent?
Bon, au niveau du panafricanisme, il y a plusieurs courants, plusieurs tendances. Il y a les leaders des États du Sahel, par exemple, qui ont le soutien de beaucoup de panafricanistes parce qu'ils défendent la souveraineté économique et politique de l'Afrique. Mais les mêmes panafricanistes, ou bien d'autres, apprécient les victoires électorales, comme je l'ai dit, au Sénégal, où le PASEF a pris le pouvoir sur la base d'un idéal panafricain, ou encore au Ghana, où le NDC, le parti de Dramani, et de John Mahama Dramani, avait revendiqué une certaine partie de l'héritage de Kwame Nkrumah. Et d'ailleurs, d'après mes informations, beaucoup de Ghanéens pensent que c'est leur seconde indépendance avec l'élection de Dramani, dans la mesure où c'est une occasion pour eux de revendiquer leur souveraineté politique et puis leurs droits ou le pouvoir de leur vote. Donc, nous, notre travail, c'est de dire que tout ce qui est bien marche, selon le contexte des réalités de chaque peuple, il faut encourager cela.
La démocratie, pour vous, elle fonctionne dans certains pays et dans d'autres, elle ne fonctionne pas, c'est ça?
Non, je ne dirais pas qu'elle fonctionne dans certains pays. Même la démocratie ghanéenne a ses limites. La démocratie en Afrique du Sud, voilà, j'ai même oublié de parler de l'Afrique du Sud, où il y a eu des élections cette année, a ses limites. Mais on est d'accord qu'il faudrait un modèle démocratique qui s'inspire des réalités africaines. On est d'accord pour cela.
Yaka Lagoke, maître de conférence en histoire et en études panafricaines à l'Université Lincoln.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La capitale syrienne Damas reprend vie ce lundi au début d'une ère pleine d'espoir mais incertaine. Les rebelles se sont emparés de la capitale et le président Bachar al-Assad s'est réfugié en Russie après 13 ans de guerre civile et plus de 50 ans de règne brutal. Le principal commandant rebelle, Ahmed al-Shara, plus connu sous le nom d'Abu Mohamed al-Golani, a rencontré dans la nuit le premier ministre d'Assad, Mohamed al-Jalali, et le vice-président Faisal Mekdad pour discuter des modalités d'un gouvernement de transition. Quels sont les scénarios envisageables dans les mois à venir? L'analyse de Djihad Gilon, journaliste pour le média Africa Intelligence et spécialiste du monde arabe, joint par Alexandrine Hollognon.
Il y a beaucoup de choses qui ont joué, notamment le fait que la majorité de la population, en réalité, était bien contre le maintien au pouvoir de Bachar al-Assad, ce qui a expliqué que les vives sont tombées assez rapidement. Donc ça, c'est un des facteurs internes. Un autre facteur interne, c'est que l'armée syrienne s'est effondrée assez rapidement. Je pense aussi qu'il y a une forme de coup de pied de l'âne du Hezbollah vis-à-vis de Bachar al-Assad qui n'a pas fait grand-chose pour défendre le parti dans sa confrontation avec Israël. Vous avez aussi une forme, malgré tout, un peu de lâchage iranien et la Russie qui est occupée en Ukraine et qui n'a pas pu assurer avec efficacité la défense du régime. À cela s'est ajouté toute une série de facteurs plus conjoncturels qui expliquent l'effondrement de l'armée syrienne.
On a vu plusieurs personnes jubiler dans les rues depuis l'annonce de la chute de Bachar al-Assad. Est-ce que cette victoire signifie réellement la libération du peuple syrien de la famille al-Assad?
Oui, je pense que la chute du régime est entérinée avec la fuite manifestement à Moscou du président et de sa famille. Donc, dans un premier temps, oui, je pense qu'il est clair qu'il s'agit d'une libération. Est-ce qu'il faut être prudent sur ce qu'il va arriver, ce qui va se passer ensuite? Bien sûr, il faut toujours être prudent sur les suites d'une révolution, mais je pense, à mon avis, que c'est une révolution authentique.
Sur le plan régional, est-ce que la chute de Bachar al-Assad va marquer un tournant pour les équilibres géopolitiques dans cette région?
Ça me paraît évident. Maintenant, il faut rester prudent sur quelles vont être ces évolutions. Je ne suis pas certain que les nouvelles autorités vont absolument renverser la table de la situation diplomatique de la Syrie. Je pense notamment à les questions israéliennes. Je ne suis pas persuadé que les nouvelles autorités auront plus envie de faire des approches avec Israël, en particulier vu ce que Israël a fait ces derniers jours, c'est-à-dire bombarder les installations militaires en Syrie alors que le régime est déjà tombé, et élargir la zone tampon au-delà du Golan occupé. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas certain qu'on voit des changements majeurs. Je pense qu'il y aura des changements majeurs au Liban, où la présence au moins symbolique de la Syrie à travers le Hezbollah sera effectivement affaiblie. Je pense que l'Irak voudra et devra instaurer de nouvelles relations avec la Syrie.
Ziad de Gilon, journaliste pour le média Africa Intelligence et spécialiste du monde arabe. L'Inde ne soutient pas la création d'une monnaie commune au sein du groupe des 9 pays et des BRICS, mais elle tente de promouvoir le commerce dans sa monnaie locale, selon des analystes de New Delhi. Le futur président américain Donald Trump a récemment mis en garde les pays du BRICS contre les efforts visant à remplacer le dollar par une monnaie alternative. Récit Ginny Niwa.
L'Inde ne cherche pas à créer une monnaie commune des BRICS, une initiative potentielle qui s'est heurtée à une forte résistance de la part du président élu des États-Unis, Donald Trump. Ce dernier a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits des 9 membres du bloc des BRICS si ces derniers remplaçaient le dollar américain par une autre monnaie ou soutenaient une alternative au billet vert. Les analystes affirment que la méfiance et les différences entre les principaux membres des BRICS, tels que l'Inde et la Chine, constituent une énorme pierre d'achoppement dans la mise en place d'une monnaie commune. Chintamani Mahapatra travaille pour l'Institut Kalinga d'études indo-pacifiques.
L'Inde ne soutient pas cette initiative. Toute monnaie commune n'aidera personne. Seuls les pays dominants comme la Chine finiront par dicter leurs lois. Il est donc très difficile de parvenir à un consensus en faveur d'une monnaie commune.
Le noyau dur des BRICS, Chine, Russie, Inde, Brésil et Afrique du Sud, s'est élargi cette année à l'Iran, aux Émirats arabes unis, à l'Éthiopie et à l'Égypte. L'idée d'une monnaie des BRICS a pris de l'ampleur en 2022 après que les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie à la suite de la guerre en Ukraine et des tensions croissantes entre l'Occident et la Chine. Mais l'alliance des pays émergents est trop hétérogène pour qu'une monnaie commune soit viable, selon Chintamani Mahapatra.
Nous n'avons pas de marché commun, nous n'avons pas de politique commerciale commune, nous n'avons rien en commun.
Toutefois, l'Inde et certains d'autres pays des BRICS ont intensifié leurs efforts pour faire le commerce dans leur monnaie locale afin de réduire leur dépendance à l'égard du dollar américain. Écoutons l'analyste commercial Biswajit Dar.
There are 17 countries that have been identified.
Le gouvernement indien a identifié 17 pays avec lesquels l'Inde souhaite commercer en roupies ou dans une monnaie bilatérale.
Parmi ces pays figurent la Russie, New Delhi, qui n'a pas adhéré aux sanctions américaines, paie en roupies ses importations massives de pétrole en provenance de Moscou. Mais, dit Biswajit Dar, le commerce de la roupie pose également des problèmes.
L'Inde a un énorme déficit commercial vis-à-vis de la Russie, ce qui signifie que lorsque l'Inde achète beaucoup de pétrole et paye en roupies, la Russie ne sait pas quoi faire du stock de roupies qu'elle détient actuellement.
Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyan Jaishankar, a déclaré que l'abandon du billet vert ne faisait pas partie de la politique économique de l'Inde. Selon les analystes, cela s'explique par le fait que les intérêts stratégiques de l'Inde sont généralement alignés sur ceux des États-Unis.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde de Joselle Morissant. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.